France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Ah, l'enregistrement oscillographique des poissons électriques, et le vol des mouettes, et l'observation du mouvement du cœur chez le cheval. Le cheval, combien de temps peut-il tenir sur un seul sabot ? Pour le savoir scientifiquement, il faut le photographier. Ensuite, du cheval au cheval moteur. Mais ce n'est pas cela qui intéressait Simone Dubreuil. Elle s'intéressait à la vocation d'un homme de science, à un nom qui, à jamais, devrait, aurait dû être associé à celui de Lumière, Louis Lumière, lequel Louis Lumière passait souvent dans le laboratoire d'Étienne Marais. Étienne Marais, l'homme auquel elle avait consacré le 28 novembre 1955, sur Paris Inter, un reportage. Document. Un génie inventif en matière de mouvement et de ses causes. Un précurseur grâce à qui fut inventé ce que Louis Lumière inventa.
Dans la série Document, la radiodiffusion télévision française présente Étienne Marais est-il l'inventeur du cinéma ? Une émission de Simone Dubreuil, à l'occasion de l'inauguration du musée Marais.
Il y a 125 ans, à Beaune, en Bourgogne, naissait Étienne Marais. Médecin et physiologiste, rendu célèbre par ses travaux sur la circulation du sang, Étienne Marais s'intéressa avec passion au mouvement et à la photographie du mouvement. Pour mieux étudier le vol des oiseaux, il construisit son fameux fusil photographique. Aujourd'hui, où vient d'être inauguré, dans sa ville natale, à Beaune, un musée consacré aux recherches de ce grand savant français, la question demeure posée de savoir qui de Marais ou de Louis Lumière fut l'inventeur véritable du cinéma, ou plutôt dans quelle mesure Étienne Marais participa à cette invention. À la fois pour mieux connaître Étienne Marais, son œuvre, ses recherches, et pour tenter d'apporter une réponse à cette question grave de la paternité du cinéma, nous avons réuni dans notre studio aujourd'hui Étienne Bouton, arrière-neveu d'Étienne Marais, messieurs Noguès et Boulle, ses élèves et collaborateurs, et le professeur Fessard, actuel directeur de l'Institut Marais. C'est à Étienne Bouton que je vais d'abord demander s'il a connu Étienne Marais.
Je n'ai pas connu personnellement Marais, étant né 2 ans après sa mort, mais j'ai beaucoup entendu parler de lui par ma mère, qui était sa nièce adoptive, et même par mon père, qui l'a connu un certain nombre d'années. Marais, enfant, a vécu à Beaune où il était né. Son père était commissionnaire en vin. Sa mère était de la même ville. Il a mené une vie très studieuse, comme son palmarès de la classe de seconde que nous avons ici le prouve. Marais avait remporté de nombreux prix, il devait être très intelligent, et la suite de sa vie et son œuvre le prouve.
Est-ce qu'il a eu tout de suite la vocation d'homme de science ?
Marais désirait, paraît-il, faire l'école polytechnique, et il avait beaucoup de chances de réussir. Mais l'autorité paternelle s'est imposée, il dut faire sa médecine.
Et sa mère n'avait pas un vœu un peu différent ?
Sa mère, M. Boulle, me racontait cette anecdote il y a quelques mois. Sa mère a toujours regretté qu'il n'ait pas été curé. Et elle le regrettait encore à la fin de la vie de Marais, presque. C'était autour de 1895, donc déjà très tard, alors que Marais avait eu de brillants succès, était professeur de faculté, professeur au Collège de France, était muni de tous les titres qu'un homme peut espérer et souhaiter. Elle maintenait son regret.
Mais dites-moi, j'ai oublié de vous faire raconter comment le jeune Marais, qui avait déjà en lui un homme de science qui sommeillait, a failli faire sauter le château de Beaune.
Oui, il avait, paraît-il, fait des essais de chimie assez malheureux.
La chimie avec... amusante.
Oui, une chimie de jeune étudiant, de jeune écolier, avec son ami Bouchard, le grand maître de la maison bien connu de Beaune. Ils avaient simplement préparé un petit exploit, il comptait faire sauter le château de Beaune.
Mais dites-moi, Marais, en tant qu'homme, était très aimé, je crois. Ce n'était pas un savant renfrogné, ni un homme d'abord difficile. Je crois que c'était un très brave homme.
Ah oui, ça, Marais était certainement très bon. Il était très aimé des siens. Il s'occupait beaucoup d'eux tous. Il était très occupé, très exigeant, comme tous les hommes de ce genre. Mais Marais n'était pas fier, comme on dit en Bourgogne.
Eh bien, maintenant, nous allons aborder Marais physiologiste. Car Marais, donc, a fait sa médecine à Paris et il est devenu très vite interne des hôpitaux, je crois, Monsieur Noguès. En quelle année, à peu près, se situent les débuts de médecin d'Étienne Marais?
Oh, c'est vers 1854. Ah oui.
Et dites-moi, est-ce que tout de suite il s'est mis au travail dans une direction qui allait être la sienne, c'est-à-dire la recherche du mouvement?
Oh non, la recherche du mouvement, ça a été beaucoup plus tard. Il s'est d'abord occupé de recherches sur la circulation du sang, simplement. Il a commencé par l'invention du sphygmographe, un petit appareil qui s'appliquant sur le poignet d'un sujet ou d'un malade, permettait d'inscrire la forme du pouls et d'en tirer des conclusions au point de vue pathologique.
Est-ce que vous avez vu le premier instrument dont il
oui,
se soit servi?
Oui, oui, nous les avons ici.
Et est-ce qu'ils figureront au musée?
Il y en a un au musée de Beaune. Mais il doit être exposé.
Mais dites-moi, est-ce que j'ai lu dans une histoire consacrée à Marais que ce qui l'avait inspiré pour la création du sphygmographe était une invention d'un Allemand de Tübingen qui s'appelait M. Firort,
oui.
Est-ce que vous avez vu cette petite invention?
Je n'ai pas vu l'appareil de Firort.
Et est-ce que
Marais l'a tellement transformé qu'on ne parle plus que des sphygmographes de Marais.
Et immédiatement après, est-ce que Marais a continué dans cette voie?
Oui, très longtemps, il a été dit à la circulation du sang. Sur la forme du pouls, sur la vitesse du sang. Et ça a duré au moins 20 années, ces recherches sur la circulation du sang. Entre-temps, il a mis au point de multiples appareils pour inscrire ces choses-là. Le tambour de Marais, qui est connu de tout le monde, c'est une petite capsule recouverte d'une membrane en caoutchouc. Et quand une différence de pression se produit dans la capsule, il y a un petit levier qui est inscrit sur un cylindre, les mouvements qui lui sont communiqués. Alors il a employé cette capsule, connue de tout le monde, de tous les physiologistes, le tambour de Marais, à l'inscription de tous les mouvements physiologiques qui étaient accessibles pour l'emploi de cette méthode.
Mais dites-moi, j'ai lu également qu'il s'était intéressé au mouvement du cheval et au mouvement de la machine.
Ah oui.
Car tout le monde connaît le pari de Leland Stanford, le gouverneur de Californie, qui était un fanatique du cheval et qui, avec quelques amis, prétendait que le cheval ne pouvait pas reposer sur un seul pied lorsqu'il galopait.
Oui.
Or, je crois que c'est à la suite de travaux de Marais que Leland Stanford a pu parier 25 000 dollars, ce qui est une somme considérable. D'après Georges Sadoul, ça représente 1 million de francs de 1939, c'est-à-dire une énorme somme. À qui il allait remettre cet argent, à qui lui prouverait, enfin par des photographies, que véritablement le cheval ne posait que sur un pied. Eh bien, quels étaient les travaux de Marais qui avaient permis à Leland Stanford de risquer une si grosse somme?
Eh bien, Marais s'était occupé de mesurer les forces en jeu dans la locomotion, l'appui des pieds du cheval. Il avait fait construire pour ça des espèces de chaussures, dont il reste encore un exemplaire au musée ici, qui permettaient de mesurer exactement l'effort que faisait le cheval sur le sol et la succession des différents appuis des pieds. Alors il s'était aperçu que à un moment donné, il n'y avait qu'un seul de ces, une seule de ces chaussures
qui posait sur le sol.
Et c'était tantôt un pied avant, tantôt un pied arrière. Parce qu'il y a deux temps pendant lesquels le cheval est sur un seul pied. Et il avait publié ça dans la machine animale et dans différents travaux. Il en avait même fait des notes à l'Académie des sciences. Et c'est venu aux oreilles des gens de sport.
Oui.
Et ce monsieur Langford a dit « c'est pas possible ». Parce que ça paraissait tellement extravagant. Et il a chargé un photographe de San Francisco, du nom de Muybridge, de essayer de déterminer par la photographie si c'était bien vrai.
Et est-ce que Marais a vu les photos de Muybridge? Est-ce que Muybridge est venu voir Marais à Paris?
Muybridge est venu à Paris. Nous avons même un album de photos faites par Muybridge, allez, à cette époque déjà lointaine. Et je crois qu'ils ont eu ensemble des correspondances.
Mais dites-moi, en passant du cheval, il est passé au cheval vapeur, rapidement, puisqu'il a enregistré les mouvements de la locomotive. Est-ce qu'il reste quelque chose de l'odographe? Ça s'appelait l'odographe, je crois.
Oui, il a fait un appareil, mais il l'a d'abord appliqué à l'homme et au cheval. C'était un petit... En somme, l'odographe, ce n'est pas autre chose qu'une bande de papier. Mais par un mouvement d'horlogerie sur lequel
c'est
on
une
peut
bande flamand, ça.
Oui, c'est ça. C'est la bande flamand qui en dérive.
Ah oui, donc la bande flamand est issue de la recherche de Marais.
De l'odographe de Marais appliqué au chemin de fer. Mais il a été appliqué à d'autres choses. Et je l'ai moi-même appliqué en 1907 à l'étude des fréquences de pulsation du cœur et de la fréquence respiratoire. C'est un cylindre enregistreur long, un mouvement long, qui permet de voir des courbes successives de fréquence, par exemple, ou des choses qui se passent dans un temps assez long.
Je crois qu'on va peut-être demander à M. Boulle maintenant de nous dire, lui, quels travaux du professeur Marais il a collaboré, M. Boulle. Vous êtes l'élève de monsieur, vous étiez l'élève de Marais depuis quelle année?
Je suis entré chez Marais en 1895.
Et vous étiez un tout jeune homme?
J'étais un tout jeune homme à ce moment-là.
Mais vous avez quel âge? C'est pas très indiscret de vous le demander.
Non, je vais avoir 80 ans dans 2 mois.
Et alors, tout de suite, vous avez collaboré à quoi?
J'ai collaboré surtout à l'aider dans ses photographies.
Et est-ce que Marais a eu conscience que le cinématographe allait devenir quelque chose d'important?
Oh, pas du tout. Marais s'est intéressé à la cinématographie simplement comme moyen d'analyse du mouvement. D'abord, il ne pouvait pas faire des films très longs comme on en fait aujourd'hui, parce qu'on n'en fabriquait pas de plus de 80 cm. Et il s'en servait exclusivement pour l'analyser et pour... Il faisait l'étude du cliché. La projection ne l'intéressait pas beaucoup. Donc il ne pouvait pas avoir aucune idée de l'extension que ça prendrait.
Oui,
tard.
Mais par exemple, quand il a filmé le vol des oiseaux, car nous arrivons à, je crois, l'invention capitale pour le cinéma, c'est l'invention du fusil photographique. Est-ce que vous avez collaboré à la réalisation du fusil photographique?
Le fusil photographique était fait en 1882.
Et vous avez travaillé avec le fusil photographique?
Non, ni le Marais non plus. C'est probablement l'instrument dont on parle le plus et dont il s'est servi le moins.
Et alors le vol tout de même des mouettes, c'est bien avec le fusil photographique qu'il l'a...
Oui, il en a fait, mais il en a fait de bien meilleur.
Sans fusil.
Dans la même année qu'il a fait le fusil photographique, il a fait son premier appareil sur ce qu'il appelait surface sensible mobile, c'est-à-dire sur film de papier d'abord, et lorsqu'on a inventé la pellicule, il a fait sur pellicule.
Et comment travaillait-il?
Lui, il travaillait. Quand il nous avait, il nous faisait travailler. Avant nous, il faisait les instruments lui-même, il faisait les photographies lui-même. Je dois dire qu'il n'était pas un très bon photographe. Et il m'a accueilli avec beaucoup de plaisir, parce que même étant jeune, je faisais de la photographie assez bien. C'est pour ça qu'on m'avait recommandé à lui. Alors je faisais ses photographies. On prenait son chronophotographe, comme il l'appelait, avec le garçon de laboratoire qu'il portait sur son dos. On s'en allait dans Paris et on faisait des vues, place la Concorde, le long des quais, de tous les mouvements. Puis au retour, je l'ai développé. et il regardait ça. Il étudiait alors le...
Mais il y a quelque chose qui est très important, c'est que non seulement Marais est un savant, mais Marais, presque sans le vouloir, a collaboré à l'invention du cinéma. Et il y a une querelle qu'on a suscitée, et dont sur laquelle je voudrais beaucoup savoir votre opinion, c'est la querelle Marais-Lumière. Certains disent que ce n'est pas Louis Lumière qui a inventé le cinéma, c'est Étienne Marais. Quelle est votre opinion, M. Boulle, dans ce débat ?
Ben, mon opinion est bien simple. Ce qu'on appelle le cinéma, aujourd'hui, c'est l'invention de lumière. C'est son appareil de projection. Mais avant lumière, la cinématographie était faite par Marais pendant 20 années. C'est-à-dire, il a fait les photographies en mouvement. Il a permis à lumière de faire un appareil.
Et est-ce que lumière est venue parfois voir Marais? Est-ce qu'il a collaboré avec Marais?
Ah, il n'a pas collaboré, mais c'était un habitué du laboratoire. Il venait souvent.
Louis ou Auguste?
Louis, uniquement. Auguste était chimiste.
Et est-ce que vous avez pu bavarder avec Louis Lumière au moment justement où allait se décider la naissance du cinéma?
Ah, il n'en a pas parlé.
Il ne vous en a pas parlé?
Il n'en a pas parlé du tout. Ça est venu comme une surprise. Un jour, Marais est revenu au laboratoire en disant « Je viens de voir quelque chose de très intéressant sur les grands boulevards. » C'était le cinéma Lumière.
Et est-ce qu'il s'est rendu compte à ce moment-là que ce moyen pour lui, le cinéma étant un moyen et non une fin, ces images animées allaient prendre une telle extension dans le monde?
Oh, il ne se doutait pas, je ne crois pas, et encore Lumière non plus. Lumière regardait ça comme une affaire intéressante, pouvant attirer du monde, mais il n'a jamais songé à l'extension de l'industrie formidable. Ça allait devenir.
Mais jusqu'à quand Marais a-t-il poursuivi ses travaux d'images animées, enfin de cinéma?
Oh, il a continué jusqu'à la fin de sa vie. Ça l'a toujours intéressé. Et après lui, nous avons continué dans la même voie.
Et je vais demander le mot de la fin au professeur Fessard, qui dirige actuellement l'Institut Marais. Qu'est devenu l'Institut Marais, monsieur Fessard?
Eh bien, actuellement, les recherches qui se poursuivent à l'Institut Marais sont des recherches beaucoup plus spécialisées que du temps de Marais. Ceci s'explique pour des raisons évidentes, parce que la science se spécialise et il a fallu admettre cette restriction du champ de recherche que Marais avait entrevu. En particulier, la partie chronophotographique a été laissée, plutôt, a été non pas totalement abandonnée, mais presque, et au profit surtout de la physiologie. Marais était un physiologiste. On a beaucoup insisté sur sa production, sur son génie inventif en matière d'inscription du mouvement, mais il s'était également préoccupé des causes de ce mouvement, tout au moins dans certains cas, et un des plus beaux exemples est celui dont vous n'avez pas parlé, monsieur Noguès, qui est l'inscription des mouvements du cœur chez le cheval. C'est une expérience classique, n'est-ce pas, célèbre, qu'il a faite avec Chauveau, en introduisant des sondes à l'intérieur du ventricule de droit et de l'oreille droite du cœur du cheval par la veine jugulaire. Il a pu enregistrer les mouvements du cœur en place. C'était l'affaire de la physiologie au sens propre, la physiologie intérieure, la physiologie des organes. Il a également travaillé sur le cœur, toujours sur le cœur de grenouille isolé, et démontrer sa loi célèbre, qui est reproduite dans tous les manuels avec une reproduction de son propre graphique, de ce qu'on appelle l'inexcitabilité périodique du cœur. Et alors, c'est dans cette ligne de la physiologie des organes, la physiologie intime, que nous travaillons, et plus particulièrement en ce qui concerne la physiologie du système nerveux. Cela implique l'utilisation de techniques électroniques Et en ce sens, je ne crois pas que Marais désavouerait l'orientation nouvelle qui a été donnée aux travaux qui se développent dans son institut. Car, en effet, il était lui-même intéressé par les phénomènes électriques. Et je dois ajouter ici, rappeler, qu'il a été le premier à faire des enregistrements oscillographiques de certains phénomènes bioélectriques. C'était en fait les décharges électriques des poissons électriques, torpilles ou gymnotes, qu'il avait fait venir ici et qu'il avait pu enregistrer à l'aide de ce qu'on appelle des signaux électromagnétiques. Il y a encore ici les premiers graphiques qu'il a enregistrés sur ces animaux et qui sont les premiers oscillogrammes qui sont par conséquent historiquement les précurseurs des oscillogrammes électromagnétiques.
Merci, monsieur le professeur. Eh bien, je crois qu'à la lumière de ces souvenirs, de ces témoignages, on peut affirmer qu'Étienne Marais fut sinon l'inventeur du cinéma, du moins de ceux sans qui le cinéma n'aurait pas été. Un grand précurseur, le plus grand peut-être. En tout état de cause, on peut affirmer que le nom d'Étienne Marais devrait être constamment associé à celui de Louis Lumière lorsqu'on parle de l'invention du cinéma.
Vous venez d'entendre une émission de Simone Dubreuil à l'occasion de l'inauguration du musée Étienne Marais. Thank you.
C'était Document. Étienne Marais est-il l'inventeur du cinéma, émission diffusée pour la première fois sur Paris Inter le 28 novembre 1955. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.